Bienvenue dans Parlons Sérieusement. Dans cette chaîne de podcast, nous parlons sérieusement. Donc si tu ne veux pas rater les prochains épisodes, n'hésite pas à t'abonner. Bonjour à tous. Dans cet épisode, nous allons parler du cancer du sein. Dans cet épisode, nous allons aborder comment dépister le cancer du sein, comment est posé le diagnostic du cancer du sein, et comment on peut déterminer les stades d'un cancer du sein, les traitements qui sont mis en place pour traiter le cancer du sein, et aussi, chose qu'on parle très peu, mais qui arrive très souvent à ceux qui ont été victimes du cancer du sein, c'est le changement que ça a eu dans leur vie, les impacts que ça a eu dans leur vie, que ça soit professionnelle ou vie privée avec leur conjoint. Donc on va aborder tous ces sujets-là. Donc avant de commencer à vous parler des impacts, je vais vous expliquer un peu c'est quoi exactement le cancer du sein. Un cancer du sein, c'est une tumeur maligne qui se développe au niveau du sein. Il existe différents types de cancers du sein selon les cellules à partir desquelles ils se sont développés. Et les plus fréquents, à 95% des cas du cancer du sein, étant des adénocarcinomes. C'est un cancer du sein qui est le plus souvent détecté partout dans le monde, que ce soit en France, à l'étranger, aux États-Unis, partout dans le monde, c'est le cancer le plus fréquent. Après, on distingue deux types de cancers. Il y a les cancers in situ, limités au cancer du sein. Après, on a les cancers infiltrants. Il y a aussi d'autres types existent aussi, mais qui sont rares. Le cancer du sein in situ ou infiltrant peut se propager au ganglion lymphatique à partir du stade 2 ou à un stade ultérieur. Après, le stade 1 étant un cancer limité à la tumeur sans extension. Il est sans extension. À des tissus voisins. En gros, c'est un type qui est limité, donc on a peu d'extension avec ce type de cancer. Dans ce cas, vous pouvez remarquer un aspect grumuleux. En fait, quand vous touchez vos seins, vous allez remarquer un aspect grumuleux. Ça peut être visuel, c'est rare, c'est plutôt quand même au toucher, on le sent. Et on peut voir des gonflements au niveau des aisselles ou autour de la clavicule. Quels sont les principaux facteurs du risque du cancer du sein? Le cancer du sein est une maladie multifactorielle. Cela signifie que plusieurs facteurs influent sur le risque de sa survenue. Il existe cinq principaux facteurs de risque aujourd'hui qui sont très, très, très connus. Le sexe, le plus de 99% des cancers du sein touchent les femmes. En fait, ça, il y a des hommes qui sont aussi impactés par les cancers du sein, mais majoritairement, ce sont les femmes quand même qui sont touchées par le cancer du sein. Et on est à 99% quand même de femmes qui sont touchées par le cancer du sein. Les hommes aussi, mais c'est rare. En gros, c'est très peu qui sont touchés par le cancer du sein. On a aussi des antécédents personnels du cancer du sein. En gros, en mettant si dans la famille, il y a quelqu'un, en gros, votre maman ou quelqu'un de la famille proche qui a eu le cancer du sein, on peut aussi avoir le cancer du sein. En gros, dans le milieu médical, ils disent que quand tu as quelqu'un de la famille qui a déjà eu le cancer du sein, donc en fait, on est une personne à risque. Il y a un risque qu'on l'ait. Ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir, mais il y a un risque. Après, ça c'est le côté génétique qui fait que, voilà, côté scientifiquement parlant, il y a un risque, mais c'est pas sûr. Donc, n'ayez pas peur si vous avez quelqu'un dans votre famille qui a eu le cancer du sein et d'avoir peur de l'avoir, de l'avoir automatiquement. Donc, détendez-vous, soyez plutôt, détendez-vous et laissez, la vie elle est courte, quoi. La vie continue son chemin. N'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte. Et aussi, il y a aussi les hormones. Par ailleurs, plus la femme a été soumise à une imprégnation hormonale, plus elle a un risque de développer le cancer du sein. Du sein. dans ça, admettons les gens qui prennent beaucoup la pilule, pour savoir, c'est que chose qu'on dit pas, qu'on dit très peu. La pilule, tout ce qui est traitement hormonaux, hormonal, on a un risque en fait, parce qu'en fait, si vous voulez, à partir du moment où on prend un traitement hormonal, c'est un traitement en fait qui va modifier un peu notre corps. En gros, le corps, il est plus le maître de lui-même. Donc tout ça, c'est un risque. Il y a un risque pour la santé, même s'ils le disent pas souvent, les médecins le disent pas souvent et qui donnent des pilules à tout le monde, tout va, sans forcément parler de ce petit risque là. Donc il faut savoir, c'est qu'il y a un risque. Donc si vous pouvez éviter le plus possible les traitements hormonaux, donc éviter, c'est bien. Comment on dépiste le cancer du sein? Alors, pour savoir si vous repérez une anomalie au niveau d'un sein, soit le sein il est plus gros ou il est plus douloureux que l'autre, ou il est un peu plus rouge que l'autre, un changement d'aspect de la peau qui rétrécit, ou un écoulement au niveau du mamelon, des ganglions dans les aisselles, tout ça en fait c'est un risque. Après, attention, il faut mettre de côté la période, les femmes, la période des règles. Souvent quand on a les femmes, la période des règles approche, on peut avoir les seins qui sont plus douloureux, ou juste un sein qui est plus douloureux, qui gonfle. Donc tout ça, ça met de côté. Et ceux qui sont enceintes, si vous avez des écoulements, vous approchez de votre accouchement, vous avez des écoulements au niveau du sein, c'est pas grave. Donc il faut mettre de côté tout ce qui est facteur naturel. Donc si vraiment vous avez ces symptômes là et que vous n'êtes pas en période de règles et ni enceinte, donc soyez vigilants. Dépister le cancer à un stade précoce est toujours préférable. Mieux, enfin, quand on le découvre plus tôt, mieux c'est. Parce que on arrive plus à anticiper les choses. Quand on le découvre, plus le traitement il sera plus efficace. Un cancer de taille inférieure à 1 cm sans envahissement ganglionnaire guérit dans 90% des cas. Donc la raison pour laquelle c'est important, si vous avez des petits signes, de vraiment pas hésiter à consulter directement, quoi. C'est très important. Plus vous détectez, plus vous avez plus de chances de guérir aussi. La mammographie, c'est la plus sûre en fait pour détecter le cancer du sein. C'est pour ça que si vraiment vous avez des symptômes, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Il va vous faire faire une mammographie. Dans 90% des cas, le cancer du sein est détecté avant l'apparition des premiers symptômes. Voilà. En France, un dépistage systématique est proposé tous les 2 ans à toutes les femmes sans risque particulier entre 50 et 74 ans. Après, à savoir si qu'on peut aussi l'avoir avant 50 ans, même si selon la science, selon le milieu, le corps médical, ils disent qu'en fait, on a moins de risque de l'avoir avant ses 35 ans. Mais il y a quand même des gens que j'ai eu moi aussi autour de moi qui ont eu le cancer du sein et qui n'avaient pas, des connaissances pas proches, mais qui ont eu le cancer du sein, ils n'avaient pas 50 ans. Donc, c'est des choses qu'on peut avoir avant 50 ans. Les femmes qui ont des facteurs de risque spécifiques bénéficient d'un dépistage ciblé plus fréquent et débutant avant 50 ans. Voilà. En gros, si vous avez aussi des risques, il y a un dépistage qui est proposé aussi avant les 50 ans. Comment est posé le diagnostic du cancer du sein? Le médecin ou le gynécologue effectue un examen clinique dans la palpitation du sein. C'est des choses que vous pouvez faire vous-même aussi à la maison. Hein. Si vous avez un petit temps en temps de toucher vos seins, ça n'y a pas de mal non plus de toucher vraiment. Et si vous sentez, plus on touche, plus on arrive encore mieux à connaître son corps et à découvrir. Et comme ça, si vous voyez un changement anormal à répétition, là, vous pouvez aller consulter un médecin pour pousser un peu l'examen et être aussi rassuré. Si le praticien soupçonne une tumeur, il prescrit des examens supplémentaires, l'examen de référence et la mammographie, souvent associé à une échographie des deux seins et des ganglions, une IRM aussi des mammaires, pouvant être demandée dans certains cas aussi, et aussi un prélèvement au niveau de l'anomalie, et alors réalisé par biopsie à travers la peau. Et l'examen des tissus prélevés établit le diagnostic du cancer. De cancer et ses caractéristiques. Tout ça, en fait, c'est des recherches que le médecin va pouvoir mettre en place. Si vraiment, après une examination, ils voient que il y a des choses pas normales, ils vont pousser un peu les examens et comme ça, vous allez voir si vous avez le cancer ou pas. C'est toujours plus sûr, honnêtement. Et si les résultats de ces examens laissent suspecter que des cellules cancéreuses ont pu migrer vers des parties du corps éloignées du sein, des du sein malade, d'autres examens d'imagerie seront réalisés. Généralement, c'est une radiographie du thorax au niveau des os aussi, un scanner aussi, échographie aussi, ou IRM abdominal aussi qui peut être réalisé aussi. Donc il ne faut vraiment pas négliger les examens, si vraiment vous avez un moins de doute. C'est toujours bon quand même d'être sûr qu'on ne l'a pas, ou si on l'a, d'avoir un traitement adapté en temps et en heure. Et comment détermine-t-on le stade d'un cancer? Plusieurs critères permettent de définir le stade du cancer: taille et infiltration de la tumeur, atteint ou non des ganglions lymphatiques, présence ou non de métastases. On y associe le grade défini en fonction de l'agressivité des cellules cancéreuses et la présence ou non de récepteurs hormonaux. Donc tout ça, c'est de la recherche qui vont vraiment définir à quel stade vous êtes, quel type vous avez, donc c'est très important. Et quels sont les types de traitements d'un cancer du sein? Différents types de traitements peuvent être utilisés pour traiter un cancer du sein. Il y a la chirurgie, la radiothérapie, l'hormonothérapie, la chimiothérapie et les thérapies ciblées. Donc vraiment, c'est des choses en fait qui sont prises en charge et personnalisées et adaptées aux caractéristiques de votre cancer, mais également à votre réaction au traitement. Par exemple, les thérapies ciblées ne fonctionnent pas pour tous les malades. Parfois, un seul type de traitement est nécessaire, mais souvent, une association est utile pour mieux maîtriser la maladie. On peut ainsi réaliser une chirurgie et compléter par une chimiothérapie ou une radiothérapie. Donc, c'est vraiment très important d'être suivi par un professionnel expérimenté et qui met son cœur aussi. C'est très important parce que c'est un moment pas facile pour la personne qui souffre du cancer du sein. Donc, il faut vraiment avoir un suivi adapté et minutieux. Et après, très souvent, les gens, ce qu'ils rencontrent quand ils sont sous traitement du cancer du sein, ils ont souvent la peau qui devient plus sèche, ils perdent leurs cheveux. Et tout ça, en fait, c'est psychologiquement, ça peut être très dur à supporter. C'est très important d'être suivi, d'avoir un bon suivi, d'avoir une bonne équipe derrière, que ce soit au niveau famille ou au niveau médical, un bon suivi derrière, parce que au niveau de la cosmétique, ça va changer. Au niveau, vous allez vous retrouver avec les gens qui ont l'habitude d'avoir des cheveux, ils vont se retrouver sans cheveux. Donc c'est pas des choses à prendre à la légère. Et chose qu'on parle très peu, souvent il y a aussi des femmes qui sont victimes quand ils ont le cancer du sein. Leur conjoint prend peur et il part. Et ça, en fait, ça fait un double choc. Donc, on a le cancer du sein. Et en plus de ça, il y a notre conjoint qui part. Donc ça, à ce moment-là, c'est des périodes de la vie où on a besoin de soutien. Donc malheureusement, ce n'est pas tous les hommes, même si la plupart sont dans la compréhension et arrivent à prendre sur soi. Ils vont plus t'aider à t'en sortir. Et après, il y a la deuxième version aussi où les hommes, quand leurs femmes ont le cancer du sein, ils ont tendance un peu à s'oublier et se mettre à, comment dire, s'oublier et être que à 100% que avec la femme. Et ça aussi, c'est une erreur parce que il faut pas non plus s'oublier. Il faut prendre soin d'elle, il faut l'accompagner, mais il faut aussi prendre soin de soi. Pourquoi? Parce que c'est une phase qui est très dure dans le couple, mais après, au bout d'un moment, c'est pas une phase en fait qui va rester dans le temps. En fait, au bout d'un moment, il y aura une fin. Et l'effet de s'oublier et de prendre soin que de l'autre, il y aura le revers du décor par la suite. Donc il faut vraiment prendre soin de l'autre et aussi prendre soin de soi, l'accompagner. Et point qu'on ne souligne aussi pas souvent, il y a aussi des gens, quand ils ont eu le cancer du sein, ils veulent pas en fait subir une ablation du sein. Il y en a, après une ablation du sein, il y en a préfèrent ne pas faire une chirurgie réparatrice, ils préfèrent assumer et rester comme ça. Donc encore une fois, ça c'est un choix qui est propre à chacun, donc il faut le respecter. Et je trouve que c'est très fort mentalement pour les gens qui arrivent à faire ça. Et au niveau des conjoints aussi pareil, il y a des gens, vu qu'il y a un changement au niveau physiquement parlant, il y en a qui ont du mal à accepter le nouveau corps de leur femme. Et je trouve en fait qu'il faut dire que c'est une maladie. même si au moment du mariage, on se dit c'est dans le malheur et dans le bonheur. Et là, ça fait partie d'un malheur, mais qu'elle a su combattre. Votre femme a été très forte. Elle a su combattre cette maladie et elle a décidé de garder cette cicatrice sur elle. Je pense qu'il faut la soutenir et pas partir parce qu'elle a perdu un sein. Et à ceux et celles, il y a celles qui veulent subir, faire une ablation, enfin pas une ablation, après l'ablation, faire une chirurgie réparatrice pour ne plus avoir, deux seins, ne plus avoir un sein en moins. Tout ça, c'est un choix qui est propre à chacun. Et le rôle de l'entourage, c'est plutôt de soutenir, de ne pas être contradictoire avec les choix de la personne. C'est vraiment ce qu'elle préfère faire, c'est de la soutenir et de l'accompagner, parce que n'oublions pas quand même qu'elle vient de combattre, elle revient de très loin quand même, parce que combattre cette maladie, c'est quelque chose quand même, même si on arrive à la combattre, on garde des séquelles quand même à vie. C'est une chose qu'on a vécue, on le garde à vie. Donc on arrivait au bout de ce podcast, et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez subi si vous avez été victime du cancer du sein, et si ça a impacté votre vie, votre vie personnelle ou professionnellement parlant, et si vous avez des jugements autour de vous, parce qu'il ne faut pas y croire, il y a des jugements. Les gens qui ont eu un cancer du sein, souvent il y a des jugements par rapport à ça, de l'extérieur, après la guérison. Il y en a qui ne comprennent pas trop pourquoi ils n'ont pas accepté de faire une chirurgie réparatrice, et il y a d'autres qui sont ouverts. Et il y a celles aussi qui décident aussi, parce que ça se fait de plus en plus, après avoir, quand on a le cancer du sein pendant la chimio, ils se rasent la tête parce qu'ils perdent les cheveux. Il y a celle aussi, après cette épreuve, ils décident de ne plus garder de cheveux. En gros, de garder tout le temps, avoir les cheveux très 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 courts, limite un peu crâne rasé. Je trouve que c'est très peu, et il faut pas juger la personne qui a décidé de faire ça. C'est un choix qui propre à chacun. Et une femme peut être belle avec des cheveux et sans cheveux. Une femme peut être belle avec des seins et sans seins. On se donne rendez-vous au prochain podcast, et n'hésitez pas à liker, à le partager autour de vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.